Nous continuons notre série « Prier à partir des Écritures par la méditation et la contemplation chrétienne dans la tradition ignatienne ». Cette série est l'adaptation française des entretiens en anglais sur le sujet du père Timothy Gallagher, entretien qu'on peut retrouver sur le site www.discerninghearts.com. Nous continuons donc notre discussion sur la méditation et la contemplation, ces deux méthodes que saint Ignace nous propose comme des guides pour prier à partir des Écritures. À la fin de l'épisode précédent, nous étions restés un petit peu en suspense. Nous avions commencé à explorer l'expérience de Catherine à ce moment particulier où elle avait décidé de prendre plusieurs jours pour une retraite ignatienne. Elle avait ressenti le désir de prier à partir de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean et choisi de prier selon la méthode de la contemplation. Cela vaut la peine de rester avec Catherine et de continuer à la suivre dans sa prière, parce qu'elle dit beaucoup non seulement de la contemplation, mais aussi en fait de la prière en général. Elle a donc décidé, et c'est là que nous en étions restés, de contempler Jésus faisant face à Ponce Pilate et à ses accusateurs qui réclament sa mort. Et Jésus se tient debout très calme, très silencieux, tandis que Catherine se place dans la scène, elle est là, elle voit tout ce qui se passe. Elle se surprend à se demander comment Jésus peut être aussi calme dans ces circonstances, alors que tous ceux qui sont autour de lui réclament sa mort immédiate. Et alors qu'elle sent Jésus si calme, elle commence à l'entendre parler. « Je commençais à entendre Jésus dire tranquillement à la foule, « Oui, prenez-moi, faites ce que vous voulez de moi, parce que ma mort sera votre salut. » Elle entend, dans ses propres mots, ce que Jésus a dit souvent dans l'Évangile. « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne librement. Je donne ma vie pour mes brebis. » Elle entend dans son cœur, d'une manière profondément personnelle, l'amour avec lequel Jésus s'offre librement lui-même pour le salut de son peuple. Et ensuite, elle entend, dans son imagination, en lisant ce qu'elle écrit, on se rend compte que ce n'est pas seulement son imagination, mais aussi une manière profondément personnelle d'entendre les vérités bibliques essentielles. Elle entend Dieu dire à son Fils, « Livre-toi à eux, je ne t'abandonnerai jamais. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi, tu es en sécurité dans mes bras. » Elle touche ici d'une manière très intime, qui commande notre respect, le point le plus impénétrable du mystère de Jésus, de son identité, de la source de sa joie, de l'amour profond entre le Père et le Fils, dont Jésus dit si souvent et si simplement, le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Elle sent que le Père dit à Jésus, « Va de l'avant, parce que quoi qu'il arrive, je serai avec toi et je te protégerai. Du bon en sortira. Il y a un sens et une raison à tout cela. Cela fait partie du projet d'amour pour le salut du monde. » Après un long temps de prière, écrit Catherine, « je réalisais que le Père était en moi comme il était en Jésus. » Il me tenait moi aussi dans ses bras et me disait « N'aie pas peur, tu es en sécurité avec moi. » Catherine est cette femme qui est entrée à l'hôpital pour une simple chirurgie d'un jour et qui a subi un accident vasculaire cérébral majeur avec des pertes de mémoire, une paralysie et qui, pendant plus de 17 ans, s'est battue pour surmonter les effets de cet événement malheureux. Et maintenant, alors qu'elle voit Jésus en sécurité dans l'amour du Père, même dans ce moment critique devant Ponce Pilate, elle commence à réaliser que le Père est aussi dans son cœur en train de prononcer ces mots. « N'aie pas peur, je t'aime, tu n'as rien à craindre dans mes bras. » Nous constatons encore une fois ce que nous avons déjà mentionné plus tôt, que nous prions par la réflexion dans le mode méditatif ou par l'imagination dans le mode contemplatif, comme le fait Catherine ici. Notre prière est une passerelle par laquelle la parole de Dieu entre dans notre cœur et le touche. Nous le voyons dans le récit de Catherine. Alors qu'elle contemple la passion de Jésus, la parole de Dieu s'adresse très intimement à son cœur, là où elle en est dans sa propre vie. Et c'est ce qui va nous arriver à nous aussi si nous entreprenons de prier ainsi. « Un autre jour de ma retraite, écrit Catherine, je contemplais Jésus juste après que Pilate l'ait condamné à mort et se soit lavé les mains de toute cette affaire. » Je vis Jésus traîné à l'extérieur par ceux qui voulaient sa mort. La peur que j'ai ressentie alors qu'il commençait sa dernière marche dans Jérusalem était atroce. Encore une fois, nous réalisons avec beaucoup de respect que Catherine est complètement présente à ce qui se passe. Elle voit tout, elle entend tout, elle ressent exactement ce que cela veut dire de marcher vers sa propre mort. Et elle est là avec Jésus. J'ai prié de nombreuses heures pendant cette retraite, avec le désir de réconforter Jésus, de lui dire que j'étais là pour lui et que je ne le laisserai pas seul. Je crois que vous pouvez ressentir qu'il est en train de se passer quelque chose d'autre pour Catherine. Alors qu'elle participe intimement à la marche de Jésus vers le calvaire, une nouvelle proximité entre Jésus et elle se développe. Jésus est en train de devenir vraiment, vraiment réel pour elle. Ce qu'il vit, ce qui agite son cœur, ce qu'il fait. Elle veut être présente. Elle veut lui laisser savoir qu'elle ne l'abandonnera pas à un moment où il doit se sentir si seul. Elle brûle de le réconforter. Imaginez ce que prier de cette façon, jour après jour, dans notre vie quotidienne, peut produire sur notre relation avec Jésus. Nous voulons une foi active et nous prions pour que notre foi augmente chaque jour. Et c'est ce qui va arriver. Jésus, les Écritures, tout dans notre foi va devenir de plus en plus vivant dans notre quotidien. Pendant une autre journée de ma retraite, je me tenais debout sous la croix. Catherine est maintenant au calvaire avec le Seigneur Jésus. Et je me suis écroulée au sol à ses pieds au moment de sa mort. Je lui avais dit que je ne le laisserais pas seul. Alors je suis restée là, à le veiller. J'ai fixé des yeux la croix pendant des heures. On entend rarement cela, rester avec Jésus dans sa passion, à l'approche de sa mort, ressentir le chagrin que Marie a dû ressentir. Une autre expérience extraordinaire, et partager avec elle quelque chose de si fort. Et alors que je demandais le courage de rester près de la croix, et maintenant une grâce complètement nouvelle, quoique déjà sous-jacente, se révèle à Catherine. À ce moment-là, et c'est mon accompagnateur spirituel qui m'en fit prendre conscience, car elle parle chaque jour à son accompagnateur de ce qu'elle vit dans sa retraite, Dieu semblait me montrer un rapprochement entre l'expérience de Jésus et la mienne, la passion de Jésus et la passion personnelle de Catherine dans les 17 dernières années de sa vie. Quand je retournais à la prière, je me mis à pleurer. Pendant plusieurs heures en prière, des scènes de mes séjours à l'hôpital après mon ACV, il y a si longtemps, alternées avec des scènes de la passion et de la mort de Jésus. On a conscience du parallèle entre les deux. Et la grâce de Jésus qui fait face à sa passion avec tant d'amour, de force, de foi dans la tendresse providentielle de son père tout au long de sa vie, commence à pénétrer l'expérience personnelle de Catherine, sa propre passion, ses 17 années de combat, apportant ce faisant une nouvelle bénédiction sur ces années. C'était comme regarder un film, mes moments de solitude et de peur alternés avec la solitude et la peur de Jésus. J'ai pleuré inconsolable pendant des heures, 17 années de larmes bénies. Dieu me serrait dans ses bras et me disait « N'aie pas peur, même pas de l'ACV et de ses conséquences. Je te tiens fort et rien ne peut t'arriver. » Et puis elle réfléchit et dit ceci. Ces larmes purificatrices amorcèrent un processus de guérison, un miracle de l'amour de Dieu pour moi. Je me mis à prier sur ma passion, entre guillemets. De la même façon que j'étais restée avec Jésus, maintenant c'était lui qui me veillait. Ces nombreuses années solitaires à me débattre avec les conséquences de mon attaque trouvèrent guérison dans ces prières. Je commençais à voir que même si j'avais gardé une distance suffisante entre Dieu et moi pour me protéger de tout ce qu'il pourrait encore me faire subir, cela peut arriver dans notre vie. Quand nous sommes meurtris, nous ne voulons pas risquer d'être encore blessés. Et quelque chose en nous peut se fermer d'une certaine manière. On sent dans la beauté et la grâce de cette longue prière sur la passion de Jésus, qu'un espace qui s'était fermé dans le cœur de Catherine, peut-être même sans qu'elle en ait conscience, s'est ouvert et que la grâce de Dieu s'y répand. C'est ce que les larmes expriment clairement. Même si j'avais gardé une distance suffisante entre Dieu et moi, Dieu avait attendu le moment opportun, ces jours de retraite en prière, pour me saisir par le bras et me tourner vers lui. Voilà, c'est ça la contemplation. Si nous essayons de prier les Écritures, en méditation ou en contemplation, si quotidiennement, ou le plus proche possible de quotidiennement, selon les devoirs liés à notre vie, à notre vocation, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, plus ou moins selon le temps que nous sommes capables de donner. Et si nous le faisons jour après jour, bien sûr, il y aura des jours de fatigue, de distraction, de lutte, mais infailliblement, comme pour Catherine, quelque chose va grandir dans la prière et va s'approfondir. Notre foi va se vivifier et à de nombreuses occasions, des espaces dans notre cœur qui attendaient depuis longtemps d'être touchés et guéris par Dieu et que nous ignorions ou que nous ne savions pas lui exposer, vont s'ouvrir dans la prière pour permettre à Dieu d'y répandre sa grâce et d'apporter transformation et guérison dans notre vie. Je pense que cette discussion étoffe bien la citation du Concile Vatican II que nous mentionnions dans notre première conversation, selon laquelle les Écritures sont nourriture pour notre vie spirituelle, force pour notre foi, et qu'elles nous apportent bénédiction de bien des façons, quand elles ont une place chaque jour dans notre vie spirituelle. Ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est d'essayer d'arriver à une appréciation initiale de ces deux approches de prière avec les Écritures, la méditation par la réflexion et la contemplation par l'imagination. Maintenant que nous comprenons bien cela, nous avons la base, l'essentiel, le cœur de l'enseignement de Saint Ignace sur la manière de prier à partir de la parole de Dieu. Car si nous prions, disons, pendant une demi-heure, à l'exception de quelques minutes pour se mettre en prière et des quelques minutes pour conclure peut-être, nous allons passer le plus clair de notre temps de prière à pénétrer par la réflexion ou par l'imagination, ou souvent par un mélange des deux, dans le texte de la parole, comme nous l'avons discuté jusqu'à maintenant. C'est pour cette raison que nous avons commencé par cette partie, qui est l'essence de cet enseignement de Saint Ignace. Et comme pour beaucoup d'enseignements, maintenant que nous comprenons bien la matière, elle nous paraît très simple, pour ne pas dire évidente. Mais nous avions besoin de quelqu'un comme Saint Ignace pour nous aider à la comprendre. Maintenant que nous l'avons saisie, nous savons que nous sommes sur une fondation solide de notre tradition spirituelle catholique. Fort de cette nouvelle connaissance, nous sommes confrontés maintenant à une autre question, qui a beaucoup à voir avec le fait que notre habitude de prière va se mettre en place facilement ou au contraire va rester plutôt difficile. La question est la suivante. Comment est-ce que je commence ma prière quand le moment est arrivé? J'ai réservé, disons, 20 minutes, seule dans ma chambre le matin ou en milieu d'après-midi si c'est mon moment tranquille, ou le soir, ou bien je suis arrivée à l'église en avance avant la messe quotidienne pour avoir un moment calme, ou encore je suis restée après la messe. Quand je suis prêt ou prête à prier, chez moi ou devant le Saint-Sacrement, comment est-ce que je commence? C'est une question importante. Vous connaissez ce sentiment qui nous gagne plus souvent que nous le voudrions quand arrive le temps de prier. Nous sommes disponibles, nous savons comment nous voulons utiliser ce temps en prière, et pourtant nous sentons une résistance, un frein. Oh, je n'arriverai pas à me mettre en prière. On dirait que je n'arrive pas à commencer. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, nous ressentons tous à l'occasion cette résistance, comme une lutte avec nous-mêmes. Et c'est cette difficulté que Saint Ignace aborde à ce point-ci dans son enseignement. Faisons un parallèle avec une expérience humaine que nous connaissons tous. Si deux amis décident de se rencontrer pour prendre un café ou simplement pour bavarder, ils ne vont pas, en général, sauter tout de suite dans une conversation intime. Il se peut que cela arrive, mais le plus souvent, il y a ces premières minutes où les deux amis se disent bonjour, échangent un signe en accord avec le type de relation qu'ils entretiennent, une poignée de main, une accolade, un baiser. Puis ils s'installent, enlèvent leur manteau, s'asseyent et probablement que les premières choses qu'ils se disent ne sont pas très profondes. « As-tu reçu mon message? Ça a bien été pour venir? Il n'y avait pas trop de circulation? As-tu entendu ce qui s'est passé au bureau ?» Ou d'autres petites phrases de ce genre. Ce qui est réellement en train de se passer à travers ces échanges anodins, c'est que les deux amis se préparent à entrer en relation l'un avec l'autre dans la suite de la conversation. Si la conversation ne devenait jamais plus personnelle que ces premières minutes, probablement que les deux amis ne se rencontreraient pas très souvent. Mais sans ces quelques minutes initiales, pour s'installer, se retrouver, reprendre contact, concentrer leur attention l'un vers l'autre, probablement qu'ils n'arriveraient pas ou qu'ils auraient beaucoup plus de mal à atteindre l'échange plus profond qui va probablement s'établir dans la suite de leur conversation. Le parallèle avec la prière est assez clair. Nous l'avons dit plusieurs fois et je ne pense pas qu'on puisse trop le répéter, la prière est fondamentalement une relation. Deux personnes qui se rencontrent, deux personnes qui échangent. Dans le cas de la prière, il s'agit d'une personne humaine et du divin et la rencontre se passe dans la foi. Paul dit « Nous cheminons guidés par la foi et non par la vue ». mais c'est bien la rencontre entre deux personnes. Ce qui veut dire que si nous avons le désir d'entrer dans un échange plus profond de notre cœur avec le cœur du Seigneur pendant notre temps de prière, nous serons largement comblés si nous portons attention aux premiers instants de notre prière, à notre façon de les vivre. Et si nous les utilisons judicieusement, de façon que ces instincts guident notre cœur doucement, tranquillement, sûrement, vers ce partage plus intense dans la suite de la prière. Voici comment saint Ignace explique sa propre pratique. Avant de commencer, à un ou deux pas de l'endroit où je veux entrer en méditation ou en contemplation. Vous voyez, il y a comme un seuil juste avant le moment et l'endroit où je vais prier. Je me tiendrai debout le temps de réciter un Notre Père. C'est la manière de saint Ignace d'indiquer une courte unité de temps, le temps qu'il faut pour dire un Notre Père ou un Je vous salue Marie. Il n'avait pas de montre au poignet en ce temps-là, ou de téléphone. Donc c'était une façon de marquer 30 secondes, ou un petit peu moins. Enfin, ce que ça prend de dire à Notre Père. Je me tiendrai debout, le temps de réciter à Notre Père, l'esprit élevé vers le ciel. Il s'agit ici de mon cœur, de mon intelligence, de toute ma vie intérieure. L'esprit élevé vers le ciel, dit-il, en considérant comment Dieu, notre Seigneur, me regarde. C'est quelque chose de très fort. Donc son conseil est le suivant. Je suis dans ma chambre, sur le point de commencer à prier avec la parole, ou bien assis devant le Saint-Sacrement, sur le point de débuter. Avant de me tourner vers ma Bible, je prends le temps qu'il faudrait pour dire à notre Père, 30 secondes, et tout simplement, j'élève mon cœur, mon intelligence, toute ma vie intérieure vers le ciel en prenant conscience que Dieu est ici, Dieu est avec moi, Dieu me regarde. Vous remarquez que saint Ignace ne dit même pas en considérant que Dieu me regarde, presque comme si c'était une évidence pour lui dans sa foi, mais plutôt en considérant comment Dieu me regarde. Qu'est-ce que je vois dans les yeux de Dieu quand j'élève tout mon être vers le Seigneur ? Et prends conscience que Dieu est avec moi, en train de me regarder. Voilà ce que je considère dans le temps que cela prendrait de dire à notre Père. Comme nous allons le voir très rapidement, pour saint Ignace, il n'y a réellement qu'une réponse à cette question. Qu'est-ce que je vois dans le regard du Seigneur quand il me regarde? Je vois un amour infini, fidèle, profondément personnel, qui m'attend, qui aspire à entrer en conversation avec moi, qui est impatient d'être avec moi. Il désire tellement me couvrir de ses bienfaits, tellement plus que moi de les recevoir. Voilà ce que je vois quand je regarde le Seigneur dans les yeux. On touche ici à quelque chose de fondamental dans la prière. Imaginons une pièce vide, à part pour deux chaises. Deux chaises placées l'une derrière l'autre, séparées de 3 ou 4 mètres et tournées dans la même direction. Et il y a une personne assise sur chacune des chaises. Évidemment, dans cette configuration, une personne voit le dos de la personne qui est assise sur la chaise devant elle, et l'autre personne voit le mur et le reste de la pièce, mais n'a pas de contact visuel avec la personne assise en arrière. On peut dire que d'une certaine façon, ces deux personnes sont en relation. On peut dire qu'elles sont ensemble dans la même pièce, qu'il y a une certaine proximité physique. Mais vous serez assez d'accord avec moi qu'on peut dire que c'est une relation très mince. Il n'y a pas grand-chose de profond dans cette relation. Tout change quand la personne qui est sur la chaise en avant retourne sa chaise et que maintenant leurs yeux se rencontrent. Et maintenant, une relation complètement nouvelle commence. C'est ce que saint Ignace nous conseille de faire comme la manière la plus féconde d'entrer en prière. Dans le temps que cela prend de dire à notre Père, je vais considérer comment Dieu, notre Seigneur, me regarde. Regardez Dieu, vous regardez. Ou regardez Dieu qui vous regarde. C'est le titre d'un article écrit par un jésuite sur cette règle de saint Ignace. Avec le cœur et l'esprit si facilement distraits, pris dans 1 million de considérations, nous faisons un arrêt, le temps que cela prend pour dire à notre Père, et consciemment, nous levons nos yeux de l'âme vers Dieu, pour découvrir le regard qu'il pose sur nous. Immédiatement, la prière devient relation. elle entre immédiatement dans un espace de vérité où une personne en rencontre une autre. Et quand nous commençons notre prière de cette façon, quand nous commençons à lire les Écritures, à réfléchir ou nous imaginer participer à la scène, il ne s'agit plus d'une personne et de la page d'un livre. La page devient le moyen que Dieu a choisi pour communiquer à notre cœur les mots qu'il veut nous dire. La prière devient relation. Mais revenons à cette question. Comment je sais ce que je vois dans les yeux de Dieu quand il me regarde? Encore une fois, il faut user de beaucoup de respect, car ceci peut nous remuer très profondément. Pour deux personnes qui entretiennent une relation, il n'est pas nécessairement toujours facile de retourner la chaise et d'être maintenant complètement présent à l'autre, parce que cela va affecter tout ce qui existe dans cette relation. Et la même chose est vraie pour la prière. Alors qu'est-ce que je vois dans les yeux de Dieu quand je tourne mon regard vers lui? Comment savoir? Il est dit dans les Écritures, par exemple, dans le premier chapitre de Jean, « Dieu, personne ne l'a jamais vu ». Alors comment savoir? Nous savons de la même manière que nous savons tout ce que nous connaissons de Dieu, à savoir par le Verbe fait chair, Dieu fait homme, dont Jean dit dans sa première lettre que nous avons entendu, que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Voilà comment nous savons. Et on peut reformuler cette question, comment est-ce que je sais ce que je vois dans les yeux de Dieu quand il me regarde, et se demander plutôt, qu'est-ce que les personnes dans les évangiles voient quand ils se tournent vers Jésus et que leurs yeux rencontrent les siens? Qu'est-ce qu'ils voient dans ses yeux? Par exemple, dans Jean chapitre 1, qu'est-ce que Nathanaël voit quand il lève les yeux et qu'il aperçoit Jésus devant lui et qu'il s'étonne que Jésus le connaisse si bien? Ce regard de Jésus change complètement le cours de sa vie. Ou bien Lévi, le collecteur d'impôts, qui est assis au bureau des impôts et qui probablement, comme les autres collecteurs d'impôts sous l'occupation romaine en Palestine, n'a pas une vie tout à fait en ordre. Cet homme lève les yeux et l'Évangile nous dit simplement que Jésus le voit. Et de là vient cet appel qui renouvelle complètement sa vie. Ou la veuve de Naïm, quand Jésus traverse la ville au moment où on emporte son fils qui vient de mourir et que Jésus la voit en pleurs. Ce regard mène à une nouvelle vie pour son fils et au retour de la joie. Ou le jeune homme riche, dans l'évangile de Marc au chapitre 10. L'évangile nous dit simplement « Jésus posa son regard sur lui et il l'aima ». Nous pouvons faire l'expérience du regard de Jésus nous-mêmes, dès maintenant, en choisissant un de ces passages dont nous venons de parler et en prenant 5 minutes pour voir ce que la personne a vu. Peut-être même se mettre à sa place et regarder Jésus. Dans plusieurs des films de la vie de Jésus, les plus récents, dans la scène de la femme adultère ou encore dans la scène de la femme dans Luc chapitre 7 qui entre dans la maison du pharisien et pleure aux pieds de Jésus, on voit le moment où ces femmes dont la vie est si brisée, qui sont rejetées, jugées, méprisées par ceux qui sont là, dans certains cas menacées de mort même, réalisent que Jésus ne les condamne pas. Dans le film « La Passion du Christ » à la scène de la femme adultère, quand elle ose lever les yeux après le départ de ses accusateurs, son regard rencontre celui de Jésus et il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamnée ?» Mais elle répond « Personne, Seigneur. » Alors Jésus lui dit « Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Qu'a-t-elle vu dans les yeux de Jésus? Que se passerait-il si moi aussi, au début de ma prière, pendant le temps qu'il faut pour dire à notre Père, je regardais comme elle Jésus dans les yeux? On ne peut imaginer une manière plus puissante d'entrer en prière. On pourrait résumer ce que nous venons de dire sur le regard de Dieu en une phrase, tirée des écrits de Saint Jean de la Croix. Le regard de Dieu est amour et débordement de bienfaits. Pour conclure, tout ce que nous venons de dire sur ce seuil à l'entrée de la prière, ce seuil à traverser, je dirais que la seule façon de progresser est de l'essayer. Si c'est nouveau pour nous, essayons-le quand nous commençons notre temps de prière personnelle. Et c'est même quelque chose que nous pouvons renouveler plusieurs fois au cours de notre temps de prière si nous le souhaitons. Lever les yeux et regarder Dieu nous regarder. Cela va très certainement apporter une grâce nouvelle à notre temps avec le Seigneur. À très bientôt. Vous écoutiez Isabelle Rebelle qui avait le plaisir de partager avec vous qui parlez français le riche enseignement du père Timothy Gallagher sur la spiritualité ignatienne. Pour retrouver tous les entretiens originaux en anglais, rendez-vous sur le site www.discerninghearts.com.